Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Bonjour, bienvenue pour ce sixième grand procès du MUCEM avec pour thème aujourd'hui Courage fuyons, la planète est inhabitable, allons-nous vivre dans le virtuel? Ce sujet est en effet préoccupant et en même temps étonnant. Au moment où la planète se dégrade, où le climat est en danger, nous avons tendance à nous réfugier de plus en plus derrière nos écrans ou derrière des dispositifs plus ou moins virtuels. Nous allons donc aujourd'hui accuser ces dispositifs de virtualisation avec nos deux experts qui sont aujourd'hui Thibaut Vior, entrepreneur dès l'âge de 20 ans, qui a commencé à accompagner les premiers jeux en réseau sur Facebook, parmi les premiers jeux au monde avec notamment eSchool, puis a développé des jeux vidéo avec Bounty, s'est spécialisé dans le secteur de l'hospitalité en passant par le groupe Accor et aujourd'hui travaille sur le métaverse avec notamment Garou, métaverse parisien, il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis Richard Memeto, sociologue, philosophe, spécialiste de la rencontre amoureuse, en tout cas à travers son dernier livre, Sex Friend, avec un sous-titre tout à fait éloquent, Comment bien rater sa vie amoureuse à l'heure numérique. Richard a également travaillé sur la pop culture, il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Donc, le virtuel est-il le coupable, la solution? Nous allons en parler aujourd'hui. Nous commençons peut-être par Thibaut Vior. Bonjour Thibaut.
Bonjour Lionel.
Je pense que nous avons tous beaucoup entendu un mot, le métaverse. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que le métaverse? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y a des métaverses? C'est un site internet? Qu'est-ce que c'est le métaverse?
Alors, grande question. Premièrement, le mot métaverse a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Il est inventé dans le monde de la science-fiction au travers d'un livre qui s'appelle Snow Cash. C'était un monde virtuel, un monde immersif. Ce monde virtuel immersif apparaît aujourd'hui. Il est là, il est sous nos yeux. Il est visible, il est accessible. Il est accessible pourquoi? Parce que ce monde immersif, c'est un monde de réalité virtuelle auquel vous accédez via un casque. C'est un casque qui vous donne une image en 3D et dans lequel vous pouvez retrouver tous les univers du monde réel à partir du moment où ils ont été créés. Je donne un exemple. Vous pouvez refaire la ville de Paris avec ses musées et vous promener dedans. Vous pouvez refaire des salles de formation où les gens peuvent aller se former. Vous pouvez retrouver aussi des scènes d'opérations chirurgicales parce que vous avez un casque qui vous permet de voir tous les gestes et tous les mouvements pour d'autres chirurgiens à distance. En fait, on rentre dans une technologie absolument parfaite aujourd'hui qui permet de faire une 3D dans lequel vous êtes extrêmement à l'aise. Alors, il y a quelques années, on avait eu des bouts d'un métaverse. On a tous eu un peu des expériences 3D, mais on avait une pixelisation dans l'écran qui était trop forte, ce qui fait qu'on était un peu barbouillé, on n'était pas très bien, on ne pouvait pas y rester longtemps. Aujourd'hui, vous pouvez y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et avoir une expérience d'une très grande finesse.
Comment ça fonctionne? On se connecte sur un site, on télécharge un programme. Est-ce qu'il y a une plateforme pour découvrir tous les programmes dont vous êtes en train de nous parler?
C'est exactement la même expérience que celle que vous avez avec un téléphone aujourd'hui. Vous mettez un casque et dans ce casque, avec vos manettes, vous pouvez choisir différents univers dans lesquels vous allez aller. Vous allez aller dans un jeu de poker, vous retrouvez autour d'une table avec vos amis qui sont sur Facebook. Vous allez vous retrouver dans Netflix à plusieurs sur un canapé virtuel à regarder le même film. Vous allez regarder ce film avec vos amis qui sont aux quatre coins de la planète et le choisir en même temps et vous mettre dans un environnement commun. Vous allez vous retrouver aussi dans ce qu'on va appeler des workrooms, des salles de travail dans lesquelles on va se retrouver à plusieurs pour travailler ensemble. Alors, on peut être à quelques pièces de distance, on peut être à l'autre bout du monde, on verra.
Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça dit? Là, au moment où on se demande si justement on n'est pas déjà derrière trop nos écrans, donc on sera derrière nos écrans et nos casques, comment vous voyez cette nouvelle évolution de la technologie et est-ce que vous pensez justement qu'on va en faire bon usage?
Je pense premièrement que la technologie, elle est là. Elle fonctionne. Vous avez, à date, sur 2021, vous avez plus de 15 millions de personnes qui ont un casque en 3D de grande qualité. Il y a des personnes qui travaillent déjà, des entreprises qui se mettent à travailler dedans. Et donc, on est dans un monde qui est déjà arrivé. la question que vous vous posez, que nous nous posons tous, c'est quel usage exact on va en faire. Est-ce qu'on va y rester un petit peu dans ces casques, dans ces univers? Est-ce qu'on va y rester une bonne partie de notre journée? Parce que finalement, ça permet de quitter le monde réel et c'est donc assez agréable. Et donc, on peut y être bien. Mais vous êtes surtout dans un monde qui, par les interactions sociales que vous allez avoir, va être très, très intéressant à découvrir. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un monde où votre représentation digitalisée et les interactions sociales que vous allez avoir vont créer un monde que je ne connais pas encore.
On demandera après à Richard de rebondir sur ces sujets, mais pour comprendre, là encore, c'est que c'est comme pour les jeux vidéo, c'est-à-dire que dans ces nouveaux espaces virtualisés, on se choisit une représentation virtuelle, donc on se crée une nouvelle identité, ça existe déjà ça dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que le métaverse par rapport à ce qu'on connaît déjà des univers qui étaient assez immersifs des jeux vidéo, qu'est-ce que le métaverse change par rapport à ça?
Je pense qu'on est dans une vraie continuité d'expériences qui ont déjà été connues par quelques-uns d'entre nous au travers, dans les jeux vidéo, au travers d'un jeu très connu qui s'appelle Fortnite par exemple, hein, qui est vraiment une forme de quasi-métaverse. Il y a des jeux très simples qui sont connus, qui sont comme Animal Crossing, qui sont vus aussi comme étant des débuts de métaverse. Vous avez eu des expériences il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années avec Second Life, qui étaient des mondes où on avait une deuxième vie virtuelle qui ont été créées et où il y a eu des premières expériences de ce que vous appelez l'avatarisation. Finalement, un avatar, c'est quoi? C'est plusieurs parties. C'est se choisir une identité. On va se choisir, alors qu'on est homme, on va se choisir une identité d'homme ou de femme. Ensuite, on va choisir une représentation. Cette représentation, elle va être avec deux bras, trois bras. Elle va être aussi le fruit de notre imagination. Et puis on va décider de s'habiller, de se donner une identité particulière en choisissant des vêtements particuliers, singuliers. Et puis on va se retrouver aussi avec cet avatar dans une situation où on va pouvoir mettre des agents conversationnels dans cet avatar et faire qu'ils continuent à fonctionner quand on n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionneraient que quand on est dans le métaverse? Ils pourraient aussi fonctionner quand nous n'y sommes pas. Et on va avoir un dernier point, c'est-à-dire qu'on va avoir la question de la sensation, c'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs. Vous avez déjà des gants qui existent avec des notions de pression et qui vous permettent de sentir les objets que vous pouvez avoir. Et donc, vous allez pouvoir vous donner des formes sur votre corps avec des aiguilles et ce que vous voulez, qui fait que les autres, quand ils vont vous toucher, vont pouvoir avoir en fait une relation à vous qui va être très différente. Et là, ce qui va se passer, qu'on va chacun aller vers une expression de nous-mêmes ou autre de nous-mêmes, corrigeant un certain nombre d'effets. On pourra se sentir plus grand, plus sympathique. Chacun décidera ce qu'il en fait.
Alors justement, cet élément qui est finalement un des points communs de tous les nouveaux outils numériques ont pu être créés, qui sont quand même la représentation de nous-mêmes, la représentation que nous fabriquons de nous-mêmes. Alors, Richard Memmetto, vous vous êtes quand même beaucoup intéressé à un outil plus commun, plus familier, que sont les applications de rencontres. Et une des pièces à conviction que vous apportez dans ce grand procès, c'est le film Netflix qui vient de sortir, L'arnaqueur de Tinder. Et vous voulez en tirer quelques leçons. Peut-être d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce que pour vous ça inspire, cette histoire.
Peut-être contrairement à ce que le titre peut suggérer, le problème c'est pas Tinder. En fait, le problème c'est l'usage de Tinder par quelqu'un qui est donc qui a été poursuivi par la justice, condamné mais faiblement, en fait quelques mois de prison, qui s'appelle Simon Leviev. Pareil, c'est pas vraiment son nom. Donc ce type en fait a arnaqué un certain nombre de jeunes femmes, surtout scandinaves, en se faisant passer pour un milliardaire qui était toujours au bout d'un moment sans le sou et qu'elle devait aider à maintenir en quelque sorte dans un niveau de vie correct. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui arrive je pense aux spectateurs, c'est qu'au milieu du film on se dit mais en fait ces femmes elles ont cru à quelque chose qui était complètement dingue. En fait, un milliardaire sorti de nulle part, assez sexy, enfin disons, en tout cas correctement habillé, plein de marques, etc., qui achète toutes les voitures qu'il veut dès qu'il arrive, dès qu'il débarque. C'est presque trop beau pour y croire. Et en fait, le problème, c'est qu'elles y croient. Et au milieu du film, on se rend compte que notre réaction, qui consiste à passer de l'accusation, disons, du milliardaire à ces femmes, c'est aussi l'accusation qui va être portée par tous les réseaux sociaux au moment où l'affaire va éclater, va devenir publique. C'est-à-dire qu'on se sent faire partie un petit peu de la meute qui dit, mais en fait, pourquoi elles y croient? Est-ce que c'est pas elles le problème? Alors évidemment, faut prendre de la distance, parce que c'est pour ça que le film est assez bien fait. C'est qu'on se voit, spectateurs, réagir comme les masques qu'on aime pas, mais là, l'idée, c'est de dire, oui, il y a quelque chose de plus général, en fait. Il y a un imaginaire. Et je pense que, quelque part, le virtuel se greffe pas sur rien. Enfin, je veux dire, si on a besoin de se projeter ou projeter des identités dans des interfaces, que ce soit des interfaces assez faibles, hein, pas très technologiques, c'est-à-dire les interfaces de rencontre, hein, où on enregistre des photos, enfin, je veux dire, on télécharge des photos, quoi, avec des messageries instantanées, mais une géolocalisation de préférence. Si on a besoin de ça, c'est surtout parce qu'on est déjà capable de se présenter soi-même et qu'on est déjà capable de se présenter soi-même en racontant son histoire. Et raconter son histoire, apparemment, c'est ce que font notamment ces femmes scandinaves, c'est raconter l'histoire de la princesse qui attend son prince charmant. Là, on touche à quelque chose, c'est comme le Titanic qui se prend un iceberg, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on attendait. En fait, c'est quasiment l'histoire d'une certaine forme de romantisme mythologique avec, disons, des femmes qui n'existent qu'à travers ce récit romantique et qui, sinon, ne se sentent pas exister, en fait. Et un homme qui, lui, a le privilège du cynisme et surtout qui peut aussi facilement, ce qu'on appelle en langage internet, catficher, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et donc, il y a au fond, derrière, à mon avis, tout un système patriarcal de représentation des hommes et des femmes. Et le problème, évidemment, c'est si le virtuel se greffe à ça, est-ce qu'on a vraiment envie de juste retrouver un écho, disons, sous une autre forme de ce qu'on a déjà connu avant et qu'on a déjà tellement du mal à déconstruire, ou en tout cas critiquer, ou en tout cas savoir gérer. Parce que ce qui est très drôle, donc, à la fin du documentaire, c'est qu'on lui demande à cette jeune fille qui a participé à l'arrestation, hein, de l'arnaqueur, on lui dit, mais en fait, vous êtes toujours sur Tinder, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, bien sûr, j'y suis depuis 7 ans, j'ai jamais quitté Tinder. Tinder n'est pas le problème. Voilà. Et c'est vrai que Tinder n'est pas le problème, en fait. Tinder n'est qu'un outil parmi d'autres. Le problème, c'est ce qui nous fait carburer en tant qu'être désirant ou machine désirante.
En fait, les applications de rencontre, maintenant, depuis Mythique, etc., c'est un outil qui est devenu très commun. On parlait de ces représentations un peu imaginaires. On se projette, en effet, donc on peut se projeter dans un avatar pour le futur métaverse. De la même façon que quand on se présente dans une application de rencontre, on peut filtrer certaines photos, on peut en choisir d'autres. Donc c'est aussi beaucoup une mise en scène de soi. Mais qu'est-ce que ça a changé au fond, après 20-30 ans de dating en ligne? Est-ce que ces outils ont changé quelque chose dans la rencontre? Nous sommes le 14 février, est-ce que ça a changé quelque chose dans la rencontre amoureuse?
Alors ce qui est génial, en fait, c'est comment ça a commencé. C'est un type qui s'appelle Gary Cremen, qui était une sorte de loser, hein, vraiment, qui le dit assez pathétique, et qui appelait avant des numéros roses. Voilà, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il n'y arrivait pas. Et donc il a essayé de passer par, disons, un système de fichiers, donc de profils en réalité. Et donc après, il s'est rendu compte que c'était trop masculin, disons, comme interface. Et qu'il fallait, d'après ses propres mots, que ça ressemble plutôt à un endroit propre et bien éclairé. Et donc ça veut dire en fait un espace beaucoup plus sécurisé. Et c'est ça aussi que ça fait apparaître. Se rencontrer, c'est pas juste ouvrir une messagerie et puis que tout le monde communique en même temps, comme ça a pu exister avant. C'était très drôle, mais c'est un vaste bordel, hein, mais c'est un peu Twitter aujourd'hui. Mais cette idée, disons, de rencontre, elle suppose qu'à un moment donné, on va vraiment rendre propre, laver peut-être et purger, voire exclure des gens qui ne sont pas propres. Donc, en l'occurrence, dans les échanges numériques et romantiques, ça veut dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, pas envoyer n'importe quelle photo. Et donc, au fur et à mesure que ces espaces se créent, il y a aussi des usages, en fait, un code qu'il faut suivre. Alors, le truc super drôle de Tinder, c'était que la philosophie générale de Tinder, à un moment donné, c'était juste « be real », sois toi-même, sois authentique. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle généralement, disons, l'idéal d'authenticité vraiment proprement moderne, hein, qui remonte à très longtemps. Mais ça veut dire qu'on va le pousser à un point où, cette fois-ci, non seulement vous allez être vous-même, mais il va falloir le vérifier. Vous allez devoir peut-être passer un certain nombre de filtres. Et à partir de là, on crée, c'est vrai, une sorte d'éthique, enfin de normes qui vont peut-être régir des nouvelles formes de rencontres.
Est-ce que ça a vraiment marché? Parce qu'encore une fois, vous le dites dans votre livre, c'est qu'en fait, si ces applications marchaient, à un moment, elles fermeraient. C'est-à-dire que tout le monde aurait trouvé chaussure à son pied, puis ce serait terminé. Et c'est vrai que l'expérience que j'ai pu avoir de ces applications, c'est parfois très, très déceptif. Ces nouvelles mises en scène de soi, tous ces dispositifs technologiques, ces matchings de plus en plus élaborés, des algorithmes de plus en plus poussés, qu'est-ce que ça nous a amené dans la rencontre amoureuse?
Évidemment, c'est la question centrale. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Mais en fait, en vrai, ça marche pas, mais c'est génial parce que ça marche pas. Parce que comme ça marche pas, vous êtes obligé de vous demander pourquoi ça marche pas aussitôt. Il y a une espèce de remise en cause nécessaire. C'est-à-dire que je pense que réellement, le fait de se faire ghoster, alors ghoster, ça veut dire qu'on vous répond plus d'un coup, hein, donc c'est super blessant, hein. En termes d'ego, c'est pas une projection, disons, réconfortante de son ego. Au contraire, on se sent assez vite impuissant. Donc en fait, cette projection, elle est donc déceptive, mais ça suppose aussi qu'on comprenne ce qu'on cherche et ce qu'on est, nous. C'est-à-dire qu'on peut pas juste y aller sans savoir finalement quel est un peu notre public. Alors évidemment, on a souvent projeté là-dessus l'image du supermarché en disant c'est comme acheter un produit, il faut savoir quel produit on veut. Mais c'est pas un produit justement, parce que le produit, en fait, il peut pas nous dire non quand on l'achète. Alors que là, clairement, il peut nous dire non. Donc c'est comme aller dans un magasin et que la tranche de jambon finalement veuille pas de nous, quoi. Et encore une fois, ça suppose de comprendre ce qui est un petit peu la base de notre désir, comment il est structuré. On ne peut pas se permettre d'avoir une rencontre assez classique qu'on a en disant « moi, je n'ai pas de type d'homme ou de femme, c'est au feeling ». En fait, au feeling, là, c'est vrai que ça ne suffit pas du tout.
Alors, le point commun, c'est vrai que ce soit l'avatar, les jeux vidéo, la rencontre amoureuse, les réseaux sociaux, c'est toujours le lien et la manière dont on se représente ce lien. Donc, comme aujourd'hui, on est à se poser la question de savoir si le virtuel est un coupable ou, au contraire, un bienfaiteur, c'est peut-être le moment, c'est une des pièces à conviction qu'amène aussi Thibaut Vior, c'est l'expérience de ce premier jeu dont je parlais en introduction, qui s'appelle eSchool, qui peut-être, Thibaut Vior, expliquait ce que c'était que ce jeu et à quelle année vous l'avez créé.
Oui, c'était en 2009, c'était un jeu sur Facebook qui permettait d'échanger des images entre personnes. Et c'est un jeu qui a fonctionné à la fois dans la vie digitale, on avait plus de 2 millions de joueurs quotidiens, et en même temps dans le monde physique, puisque le week-end, les gens se retrouvaient pour dîner ensemble, et on avait des milliers de personnes qui dînaient ensemble en fin de semaine pour se retrouver. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est, pour moi, c'est la notion de sociabilisation. C'est-à-dire que la question n'est pas notamment ce qu'on fait, quelle est la raison de cet échange, que ce soit dans la rencontre amoureuse. On entend souvent qu'en fait, ça a créé des amitiés. Et finalement, je crois qu'il y a une matière qui permet la rencontre, il y a un sujet qui permet la rencontre, mais surtout ce qui est intéressant, c'est ce moment où on se retrouve. Et se retrouver, ça peut être fait, de mon point de vue, dans le réel, bien sûr, dans le digital, dans un monde qui était le monde de Facebook, qui peut être dans un monde qui peuvent être les apps de dating, mais je crois que ça va se passer aussi demain dans un monde qui va être le métaverse.
Alors d'ailleurs, à ce propos, on entend un témoin qui vient, c'est plutôt une témoin, qui s'appelle Fabienne et qui a quelque chose à nous dire sur ses expériences sociales dans le métaverse.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à témoigner. Je suis contente, j'ai vraiment un truc intéressant à raconter parce que je vous explique, je sors de l'enterrement de ma mère. On a organisé l'enterrement de ma mère dans le métaverse et sincèrement, c'était extraordinaire. En fait, avec mes frères, on a enterré mon père il y a 2 ans et ça avait été vraiment compliqué. D'abord, on n'était pas d'accord pour la cérémonie, religieuse ou pas, cimetière ou crémation, et puis le cercueil à choisir, les textes à lire. En plus, à cause du Covid, on était limité à 20 personnes, alors il fallait faire des choix. Bref, on s'est un peu tous fâchés. Sans parler du temps passé et de l'argent dépensé, je crois bien qu'on s'en est collé pour 10 ou 12 000 euros au final, entre les pompes funèbres, les fleurs, la concession. Alors, quand Meta nous a proposé un enterrement virtuel, on a sauté sur l'occasion. On avait déjà tous nos casques et nos gants sensoriels. Alors, avec un petit supplément enterrement, ils s'occupaient du débarrassage du corps, ni vu ni connu. Et nous, on n'avait plus qu'à louer un salon virtuel que l'on pouvait décorer à notre goût et inviter notre nombreuse famille, nos amis, les amis de maman. Alors, sur le catalogue en ligne, on a choisi Pop Art pour la décoration, pour que ce soit moins triste. Et moi, j'ai acheté une robe Gucci pour mon avatar. Après, ça a été une cérémonie merveilleuse. Tous les amis de maman étaient venus du monde entier et tout le monde a pu lire un texte ou faire un témoignage, offrir des fleurs virtuelles. Et il y avait même ma mère. Son avatar était là, interagissant avec nous tous. C'est qu'elle en connaissait du monde, maman, à force de passer sa vie sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Tout le monde était ravi. C'était vraiment joyeux. Et puis personne dans la galère. En 2 heures, c'était réglé. Parce qu'on a tous connu cela un jour, non ? La tante Ginette qui est morte, il faut y aller. En plus, elle est enterrée dans le sud de la France. Et les billets à la dernière minute pour toute la famille, c'est pas donné. Alors, pour le méta-enterrement, on avait pris le format de 2 heures. Mais tout à coup, ils sont tous partis. Et on a juste eu le temps de se dire « à bientôt » avec mes frères. Et j'ai senti un grand vide. Et puis, j'ai enlevé mon casque et mes gants. J'étais toute seule dans mon bureau, la nuit tombée. Il faisait froid et venteux. Et je n'arrivais plus bien à savoir ce qui était vrai ou pas vrai dans tout ça. J'aurais voulu me connecter à maman pour lui raconter, mais bien sûr, elle n'aurait pas répondu. Alors, je suis sortie dehors, j'ai vu de la lumière et je suis venue ici pour vous voir, vous sentir, sentir vos bruissements, vos réactions, imaginer votre empathie, sentir votre odeur, Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur.
Voilà, on entend le témoignage de Fabienne et son enterrement dans le métaverse. C'est vrai que bon, c'est une manière, alors là aussi, de faire du virtuel une des émotions réelles. Juste pour rappeler cette anecdote que vous m'avez confiée sur ce jeu qui était eSchool, c'est que vous aviez un jour rencontré un chauffeur de taxi et qui vous raconte qu'il est un utilisateur de ce jeu et vous découvrez qu'en fait, toute sa vie sociale s'est réorganisée quasiment. Ses amis sont devenus ses amis eSchool.
Oui, c'est un chauffeur de taxi d'Avoriaz vers une gare et je discute avec le chauffeur de taxi et il m'explique que bon, pour lui, l'avenir de la relation, des réseaux sociaux, ça va se passer que par les jeux. Il avait une cinquantaine d'années. Et puis, chemin faisant, dans la conversation, je comprends que son groupe d'amis, c'est un groupe de motards qui ne jouent qu'au jeu et qui les a croisés au travers du jeu. Et j'ai dit, mais vous les connaissiez comment ? Il dit, bah, j'étais nouveau dans la région. Je suis passé par l'interface d'un jeu pour rencontrer du monde. Et ce qui est vrai, c'est qu'on parle beaucoup des jeux de type Fortnite, qui sont les jeux très connus et qui correspondent à une catégorie de population très hardcore gamer, à une population d'adolescents. Mais vous avez plein de mécaniques de jeu qui permettent effectivement cette sociabilisation pour des gens divers et variés. Vous avez un autre exemple, vous avez tous les jours en France, vous avez 400 000 personnes qui jouent à la belote en ligne. Eh ben, les deux premières parties sont gratuites, la troisième est payante, vous savez pourquoi ? Parce que quand tout le monde joue vers 22h, 23h, eh ben, vous avez envie de la troisième partie et vous payez pour la troisième partie pour continuer à rencontrer quelqu'un et à échanger avec lui. C'est pas qu'une logique de gain, c'est pas qu'une logique d'être le premier, c'est une logique d'échange et d'avoir trouvé une table qui est sympathique.
Donc là, en effet, il y a plein de fenêtres, ça peut être le cas dans certaines rencontres amoureuses, ça peut être le cas dans certains jeux en ligne, c'est vrai aussi même dans Fortnite où des gens se sont rencontrés, des amis, certains de nos enfants discutent avec des gens qui sont dans le monde entier. Il y a quand même un sujet, c'est la question de l'addiction qui est souvent posée dans ces rapports au jeu, que ce soit dans la rencontre, etc. C'est nos cerveaux qui fonctionnent de manière très addictive. Alors, les Chinois ont annoncé à la fin de l'année dernière qu'il fallait quand même mettre une limite à l'usage de toutes ces interfaces, et notamment des jeux, en disant, pour les enfants de moins de 18 ans, les jeunes de moins de 18 ans, ce ne sera pas plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine, de 20h à 21h, uniquement le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, on voit une limite très très claire qui a été posée par le gouvernement chinois qui considérait que sa jeunesse évaporait beaucoup trop d'heures dans les jeux vidéo. Donc, peut-être Thibaut Vieux, et puis après, on va parler de la pièce à conviction de Richard Memmetto. Qu'est-ce que vous inspire cette décision de limiter un temps d'écran ? Parce que même si peut-être, comme vous le disiez, il y a des effets bénéfiques à la rencontre, mais à un moment, sait-on s'arrêter, nous les êtres humains, faibles et fragiles ?
Je pense qu'on se rencontre année après année, que ce soit le mobile pour les enfants ou pour les adultes, que ce soit les réseaux sociaux pour les enfants ou pour les adultes, que ce soit les jeux vidéo, bref, ou même la télé en fait. On se rend compte qu'il y a un moment, il faut savoir s'en servir à une juste mesure. Et je crois que c'est la question qui va nous être posée cette fois-ci avec le métaverse et avec toutes les rencontres qui vont être induites et le côté très addictif qu'il peut y avoir quand on essaye ça. Bah, ça va être la question, effectivement, du bon usage. Quelle est la bonne règle de fonctionnement ? Je la connais pas. Par contre, je pense qu'elle se bâtit. Je pense qu'elle se bâtit comme tout. Je pense que c'est la même chose que par rapport à l'alcool. Je pense que c'est la même chose que par rapport à une addiction. Voilà, quelle est la règle ? Alors, je sais pas si c'est alcool uniquement de 20h à 21h, trois soirs par semaine, ou si il va falloir inventer des règles qui sont... voilà ce qui est à peu près bien.
Alors, au moment où justement certains dénoncent, et en effet, les règles ne sont pas posées, on ne les connaît pas, mais au moment où certains dénoncent, enfin, en tout cas, un État comme la Chine fixe des règles très autoritaires, Richard, vous avez choisi comme pièce à conviction d'apporter le témoignage d'une femme qui s'appelle Jane McGonigal, ou Gonigal, je ne sais pas comment on prononce, qui est une designeuse de jeux vidéo, et alors dont son témoignage est tout à fait paradoxal. Elle dit « Nous jouons beaucoup, mais il faut que nous jouons davantage. » Donc pourquoi avoir choisi ce témoignage ? Expliquez-nous un petit peu ce que veut dire cette femme en disant « Jouons plus encore ».
Alors en fait, elle a une idée vraiment qu'elle juge révolutionnaire, parce qu'elle fait le constat qu'effectivement tout le monde joue, mais je ne joue pas pour changer le monde. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est réorienter en quelque sorte les jeux vers des objets qui seraient effectivement vraiment transformatifs de notre monde actuel. Donc, alors elle s'est essayée à beaucoup de jeux différents, des jeux où on met en scène la distribution des tâches ménagères, des jeux où on essaye de rationner donc le pétrole dans un monde où il y en aurait de moins en moins. Voilà, donc c'est vraiment l'idée des jeux éducatifs. Peut-être pas les jeux les plus intéressants, mais comme elle part du principe que plus on joue, plus on devient intelligent, en tout cas plus on devient virtuose à ce qu'on fait, Après tout, des enfants pourraient comme ça se préparer à un monde, disons, un peu moins sympathique qu'aujourd'hui, en jouant. Et donc, son thème général, c'est de dire on constate un écart souvent entre la réalité et le jeu. En fait, la réalité est cassée, donc c'est le titre de son livre, Reality Broken, mais en fait, elle veut réparer cette réalité en trouvant une sorte de plateforme comme ça du jeu. Et le jeu a un bénéfice, et celui dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire il engage, il est très, disons, alors très immersif, ça dépend de la façon dont on conçoit l'interface, mais en tout cas, il donne envie d'y jouer encore et encore. Et si on fait jouer à des choses qui pourraient être intelligentes, on deviendrait plus intelligent. Alors moi, je crois que l'énorme problème qu'elle a, c'est ce qu'elle appelle en fait la motivation intrinsèque du jeu, c'est-à-dire qu'on joue pour jouer, parce qu'on se fait plaisir, mais peut-être qu'on perd de vue en fait ce qui aurait été la finalité même du jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, est-ce que ce serait génial de jouer à des tâches, comment dire, de jouer pour savoir comment distribuer les tâches ménagères? Si on prend juste plaisir à jouer, on va peut-être oublier qu'au fond, l'enjeu, c'était de, répartir de façon un peu plus égale entre les sexes les tâches ménagères. C'est à la fois une idée assez intéressante, hein, assez brillante, et en même temps, j'allais dire, c'est une sorte de prophétisme un peu aveugle. Le jeu est effectivement quelque chose qui peut intéressé, voilà, qui a cette capacité d'engager le joueur. Mais je pense qu'il faut que le joueur arrive à décider pourquoi il joue. On peut pas simplement jouer pour jouer, en fait. Jouer pour jouer, c'est effectivement peut-être à la fin se faire manipuler de n'importe quelle façon.
Surtout que les designers de jeux savent très bien monter des dispositifs justement qui nous laissent à nous engager. On arrive à la fin de ce sixième grand procès. Difficile de savoir si en effet le virtuel est le responsable, le coupable de la manière dont nous sommes au monde et aux problèmes climatiques qui nous occupent aujourd'hui aussi. Ce qui était pour finir et pour voir que les questions se repose toujours de la même façon. Thibaut Vuur, vous racontez que déjà dans le métaverse, des questions se posent sur la manière que l'on doit avoir d'approcher un avatar. On est pourtant avec une représentation complètement imaginaire de soi, mais déjà, il y a des règles qui s'imposent, c'est ça que vous découvrez là en ce moment ?
Vous avez typiquement donc Facebook qui s'appelle Meta hein, maintenant. On en a parlé tout à l'heure dans le témoignage que nous avons eu. Facebook, qui s'appelle la société Meta, depuis maintenant trois mois, je crois, a mis en place des règles hein, d'accès dans le métaverse où on peut se mettre dans un système de protection avec son avatar pour avoir une distance qui est entre 1,50 m et 2 m minimum pour pas qu'il y ait trop d'interactions sociales parce que effectivement il y a des comportements de certains qui sont un peu excessifs, je dirais un peu comme dans la vraie vie, on arrive à le retrouver tout de suite en fait dans le monde digital. Et donc on peut décider d'être en mode protection ou pas en mode protection.
Donc on voit déjà que le réel recommence à conquérir l'immersif et le virtuel avec ces nouvelles règles. Et c'est vrai aussi pour le dating dans les applications de rencontre, il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux principes qui se sont fixés, qui ont été fixés.
Ah ben on peut se débarrasser de quelqu'un très très vite. Je crois que c'est
l'enjeu. Ouais, plus facilement que dans le réel.
C'est ça.
Bon, merci beaucoup pour ce sixième grand procès. Encore une fois, une initiative organisée par le MUCEM qui nous permet de réfléchir à des grands enjeux. J'espère que ce débat vous aura été utile. À bientôt.
C'était le podcast Le procès du siècle,
Délibération citoyenne.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.